Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse des divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je me permets d'abord de vous rappeler qu'il y a des retraites qui sont prévues ici, à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, donc au nord d'Albi. J'ai mis 6 retraites pour l'année 2022. La première est pleine déjà, celle de la Semaine Sainte. Je peux prendre 6 personnes. Ce sont des retraites un peu familiales. Je prêche les exercices Saint-Ignace selon la méthode du Père Vallée, telle que j'ai appris à les prêcher au séminaire d'Écône. Donc il reste 5 retraites où j'ai de la place, du 25 avril au 30 avril, du 16 mai au 21 mai, du 6 juin au 11 juin, du 12 septembre au 17 septembre et du 3 octobre au 8 octobre. Donc s'il y a parmi vous qui m'écoutent, ceux qui m'écoutent sur Internet, qui sont intéressés, vous pouvez me passer un coup de téléphone ou m'envoyer un message pour vous inscrire. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire pour que je puisse m'organiser. Voilà, donc nous reprenons le cours. Nous en sommes à Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, au verset 22 sur le polycopier qui contient les chapitres 1 à 5 de Saint Jean. Nous en sommes en bas de la page 37 ou au début de la page 38 selon les polycopiers. Voilà le texte. Verset chapitre 3 de Saint Jean, versets 22 à 26. Après cela, Jésus vint avec ses disciples dans le pays de Judée. Il y demeurait avec eux et baptisait. Jean baptisait aussi à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On y venait et on y était baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or il se leva une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs touchant à la purification. Ils vinrent à Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain auquel vous avez rendu témoignage, baptise maintenant, tous vont à lui. » Donc nous allons parler un petit peu de ces deux baptêmes, le baptême de Saint Jean-Baptiste, donné par Saint Jean-Baptiste, et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que va faire notre Seigneur par... au moment où il va être baptisé par Saint Jean, il va sacramentaliser le baptême de Saint Jean. Le baptême de Saint Jean n'était pas un sacrement. Le Saint Jean-Baptiste n'était pas un sacrement. C'était un sacramental, en quelque sorte, qui agissait en purifiant du péché, y compris du péché originel, par un acte de foi au Messie à venir. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, les Juifs n'étaient pas tenus par les sacrements parce qu'ils n'existaient pas encore. Cependant, ils avaient une âme à sauver comme tout le monde. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, les Juifs de l'Ancien Testament aussi, comme tous les hommes, devaient sauver leur âme. Ils ne pouvaient pas sauver leur âme par le baptême, puisque le baptême n'existait pas encore. Ils ne pouvaient pas sauver leur âme par la confession, par les Saintes Eucharisties, ces baptêmes n'existaient pas encore. Mais ils savaient que le Messie allait arriver. Et donc, ils devaient faire un acte de foi au Messie à venir. Et donc, toutes les purifications... voulu par Dieu pour le peuple juif, qui était très, très, assez complexe, toutes les purifications, tant pour les hommes que pour les femmes, purification des mains, purification du corps, purification des différents objets liturgiques ou même objets domestiques qui étaient recensés, qui étaient organisés, toutes ces purifications étaient des actes de foi indirects en la purification nécessaire que venait apporter le Messie. Et donc, par cet acte de foi au Messie qui allait arriver, eh bien, les Juifs de l'Ancien Testament pouvaient obtenir le pardon de leurs péchés, y compris du péché originel. La circoncision, par exemple, pour les hommes, était un acte de foi à celui qui allait circoncire le péché de l'homme, détruire le péché de l'homme. Pour les femmes, il y avait toute une série de purifications, par exemple avant les couches, après les couches, etc. Et ces purifications avaient le même but. Notre Seigneur Jésus-Christ, en étant baptisé par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, va tout simplement sacramentaliser le sacrement de le baptême de Saint Jean-Baptiste, qui va devenir un sacrement. Voilà ici ce que disent les pères de l'Église à la page 38. Le baptême de Saint Jean-Baptiste avait, avant le baptême de Jésus-Christ lui-même, la même efficacité que les enseignements de la foi qui sont donnés aux catéchumènes. Même pour, n'oubliez pas, ça c'est aussi très très important pour les catéchumènes dans le Nouveau Testament. Catéchumènes, c'est-à-dire des gens qui se préparent au baptême, qui ne sont pas encore baptisés, je parle d'adultes là, qui se préparent au baptême. Eh bien, ils font un acte de foi en un baptême qu'ils n'ont pas encore reçu. Et les catéchumènes se préparent, apprennent à connaître la foi catholique et doivent déjà faire un acte de foi, au moins sur le plan naturel, sur toute l'intégralité de l'enseignement de l'Église catholique, même s'ils ne sont pas encore baptisés. Imaginez un catéchumène qui meurt avant le baptême, d'un accident par exemple, eh bien, il peut avoir à ce moment-là ce qu'on appelle un baptême de désir. C'est très important. D'autant plus aujourd'hui que ce baptême de désir est nié par une secte dont je vous ai souvent parlé parce qu'il a fait beaucoup de dégâts, la secte des Finéistes. Des Finéistes, donc fondée par le père Finney autour des années 50 à Boston dans le Massachusetts américain, et secte qui nie le baptême de sang, le baptême de désir. Donc le baptême de Saint Jean, si vous voulez. Le baptême de Saint Jean, qui n'est pas strictement parlant un sacrement, pas encore, mais qu'on appelle le baptême de Saint Jean-Baptiste, était en quelque sorte un baptême de désir qui effaçait, en tant que baptême de désir, le péché originel, parce que c'était déjà un acte de charité parfaite qui efface tous les péchés. C'est quelque chose de très important à ne pas oublier lorsque souvent, ça nous arrive souvent d'avoir des coups de téléphone de jeunes ou de moins jeunes qui me téléphonent en me disant, Monsieur l'abbé, j'habite très loin d'un prêtre, j'aurais bien besoin de me confesser. Est-ce que je peux me confesser par téléphone? Non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Parce qu'on pourrait, il pourrait y avoir des fuites, des écoutes sur le téléphone, et on ne peut pas confesser par téléphone. Le pape Pie XII avait déclaré, avait interdit les confessions par téléphone. Mais quand les gens me disent, Monsieur l'abbé, je suis un tas de péchés mortels, j'ai absolument besoin de me confesser, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'ai pas de prêtre à ma disposition. Et je ne vais pas pouvoir venir vous voir avant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis toujours, essayez d'obtenir de bon Dieu, dans sa miséricorde, il vous accordera la grâce d'un acte de contrition parfaite. Si vous regrettez vos péchés du fond du cœur par amour de Dieu, cet acte de charité parfaite efface tous les péchés, y compris les péchés mortels. Je leur dis donc, récitez lentement l'acte de contrition, rajoutez à cela l'acte de charité. Et les deux liés ensemble forment ce qu'on appelle un acte de charité parfaite, et Dieu peut vous accorder la grâce d'un acte de contrition parfaite. Il ne faut pas se décourager en disant, je suis en état de péché mortel, je n'ai pas de prêtre à ma disposition, et donc c'est épouvantable, je vais rester en état de péché mortel. Demandez la grâce d'un acte de contrition parfaite. Donc Saint Jean-Baptiste annonçait, disent les pères, le baptême de Jésus-Christ et attirait les hommes à la connaissance de la vérité qui venait de se manifester au monde. Donc, le baptême de Saint Jean-Baptiste, qui n'était pas strictement parlant un sacrement, pas encore, contenait en lui-même, à la fois, si vous voulez, un baptême, contenait en fait un baptême de désir. Il y avait un désir de connaître la vérité qui allait être enseignée par le Christ à venir. De connaître la vérité qui était déjà enseignée par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est ainsi que les ministres de l'Église commencent par enseigner ceux qui veulent embrasser la foi. Ils leur font ensuite faut voir l'énormité de leurs péchés, leur en promettant la rémission par le baptême de Jésus-Christ, et les attirent ainsi à la connaissance et à l'amour de la vérité. Donc on peut avoir cette connaissance de Dieu, au moins à un certain degré, connaissance des vérités de l'Évangile, sans être baptisé. Le baptême ne va faire qu'augmenter ce désir, qu'augmenter cet amour de la vérité. Mais c'est le but, si vous voulez, du catéchuménat, ce qu'on appelle le catéchuménat, une période de formation très importante, surtout aujourd'hui pour les adultes, qui peut durer assez longtemps selon les personnes. Dans les pays africains, je me rappelle Mgr Lefebvre qui était longtemps en Afrique, nous disait qu'ils imposaient un catéchuménat souvent de 3 ans. Bon, en Afrique, il parlait surtout à ce moment-là de Côte d'Ivoire où il était, même au Sénégal, au Gabon aussi, il imposait un catéchuménat de 3 ans pour être sûr que les adultes qui demandaient le baptême avaient le temps de se couper de toutes les habitudes de vie, les habitudes sociales, les habitudes familiales qui étaient incompatibles avec la foi catholique. À commencer, bien sûr, par la polygamie. La plupart des Gabonais, par exemple, et au moment où ils se mariaient civilement, devant l'équivalent de la mairie de l'endroit où ils habitaient, eh bien, avaient le choix de choisir soit une femme, soit quatre. Il y avait deux cases à cocher dans le certificat de mariage civil, et ils cochaient pratiquement tous la case de quatre épouses possibles, au cas où, comme ils disaient. Et évidemment, ça rendait tous les mariages invalides, parce que même pour un mariage naturel, c'est un mariage qui n'est pas un sacrement, pour qu'il y ait un mariage valide, il faut que la loi naturelle soit suivie. La loi naturelle demande trois conditions pour qu'un mariage, un contrat de mariage soit valide devant Dieu. Il faut d'abord l'acceptation des enfants, mais il faut aussi l'unité, l'indissolubilité. Si j'accepte plusieurs épouses, ça va contre l'indissolubilité, le mariage est invalide. Bon. C'est très important aussi, par exemple, avec les orthodoxes. Les sacrements de l'Église orthodoxe russe, par exemple, sont presque tous valides, sauf les mariages. Parce que les Russes, dans l'Église orthodoxe russe, ils acceptent, je crois, trois divorces, trois remariages. Et donc, le sacrement de mariage donné devant les prêtres russes sont invalides parce que, justement, il n'y a pas la condition d'indissolubilité et surtout d'unité qui est remplie. Il faut l'unité, l'indissolubilité. Indissolubilité, ça veut dire. Unité, c'est un homme avec une femme. Indissolubilité, ça veut dire l'union entre l'homme et la femme par le sacrement de mariage est indissoluble et ne peut être dissoute que par la mort. Alors malheureusement, ça explique pourquoi on demande beaucoup de conditions à des personnes qui sont habituées à vivre dans des sociétés dans lesquelles le mariage n'est pas respecté. C'était le cas en Afrique à cause de la polygamie. Et donc on donnait demandait 3 ans, 3 ans de catéchuménat avant le baptême, pour être sûr que les personnes avaient compris l'importance de cette indissolubilité du mariage chrétien. Ça posait des problèmes énormes, et souvent insolvables. Parce que quand quelqu'un demandait le baptême et qu'il était déjà marié avec quatre épouses, il fallait qu'il en mette dehors trois, ou qu'il les mette toutes les quatre dehors et qu'il en prenne une autre. C'était une dispense qui avait été accordée par le pape Pie XI pour les missions. Mais c'était très compliqué parce que dans ces pays-là, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, plusieurs fois, dans ces pays-là, il n'est pas question de renvoyer une épouse civile, sans renvoyer l'épouse civile avec sa dot. Les dots sont considérables. Donc quelqu'un qui a quatre épouses civiles et qui veut les renvoyer toutes pour pouvoir fonder vraiment une famille catholique avec unité et l'indissolubilité, il doit renvoyer quatre épouses et quatre dots. Et souvent, par exemple, comme dot, c'était une voiture ou une maison. C'était le prix parfois de plusieurs années de travail pour un pauvre Africain, afin de pouvoir constituer la dot d'une seule de ses épouses civiles, et quand il y avait trois ou quatre, ça rendait les baptêmes en fait impossibles. Donc il fallait beaucoup insister sur ces préparations au baptême et sur le baptême de désir. N'oublions pas qu'un baptême de désir est un acte de charité qui efface tous les péchés. Donc non seulement le péché originel, mais également tous les péchés actuels commis après le péché originel. Donc, ce baptême de désir était obtenu en augmentant l'amour du bon Dieu, l'amour de la vérité, la connaissance de la vérité. Moi, j'ai vu ça souvent chez des adultes. J'ai beaucoup préparé d'adultes au baptême. Les dernières années, j'ai dû baptiser, je ne sais pas, au moins 70 adultes, quelque chose comme ça. Et il fallait longuement les préparer pour être sûr qu'ils avaient bien compris. Et ce qu'il faut, c'est leur donner le désir, l'amour de la vérité. Alors, on continue d'expliquer les versets 22 à 26 du chapitre 3 de Saint Jean. On est à la page 38. Voilà ce que disent les pères. Dieu permit la mort de Saint Jean-Baptiste. Et Jésus ne commença qu'après la mort du précurseur le cours de ses prédications, afin que l'affection du peuple tout entier lui fût acquise, les esprits n'étant plus partagés sur le mérite respectif de l'un et de l'autre. Rappelez-vous ce qu'avait dit Saint Jean-Baptiste à propos de notre Seigneur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, c'est-à-dire que mon travail en tant que précurseur, c'était d'amener les gens à notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que la réalité est là, l'image peut disparaître. Et donc, il faut que je diminue. Et ça va être pris au sens littéralement propre. Il a été diminué de 30 cm en étant décapité par Hérode. On voit très bien l'humilité extraordinaire là de Saint Jean-Baptiste qui ne jalouse pas notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour préparer les gens à venir à notre Seigneur. C'est un peu le même rôle de notre Seigneur Jean-Marie. Le rôle de notre Seigneur Jean-Marie, bien qu'elle soit co-rédemptrice du genre humain, bien qu'elle soit médiatrice de toutes les grâces, son rôle c'est d'amener à son divin Fils. Donc elle amène à son divin Fils et après littéralement elle se retire un peu pour que son Fils puisse prendre cette âme complètement à lui. D'ailleurs, ce qu'il fait, c'est qu'après avoir pris cette âme sous sa propre protection, eh bien, il va la redonner à sa mère. C'est ce qu'il va faire au pied de la croix avec Saint Jean, sa mère qui sont au pied de la croix. Lui est crucifié. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il va dire à sa mère ? Fils, femme, voici votre fils. Et ensuite, à Saint Jean, qui représente l'Église, il va dire : Fils, voici votre mère. Donc, il confie son Église à la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie va en quelque sorte se faire considérer comme mère par Saint Jean qui représente l'Église. En effet, disent les pères de l'Église, les disciples de Saint Jean-Baptiste nourrissaient des sentiments de jalousie contre les disciples de Jésus-Christ et contre Jésus-Christ lui-même. Dès qu'ils virent que les disciples du Sauveur baptisé, ils engageront une discussion avec eux, avec ceux qui recevaient leur baptême. Discussion qui avait pour objet la supériorité du baptême de Jean sur celui des disciples de Jésus-Christ. Or, il s'éleva une question entre les disciples de Saint Jean-Baptiste et les Juifs. Ce furent les disciples de Jean-Baptiste et non les Juifs qui soulevèrent cette question. Ce que l'évangéliste fait entendre en disant que cette question s'éleva non parmi les Juifs, mais entre les disciples de Saint Jean et les Juifs. Pourquoi ? Parce que les disciples de Saint Jean étaient très attachés à la personne évidemment de Saint Jean. Ils n'avaient peut-être pas encore tous compris que Saint Jean n'était que celui qui amenait au Christ. Saint Jean est en quelque sorte le pont qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui témoigne de quelqu'un qui est plus grand que lui. D'où cette phrase qu'on va trouver au chapitre 3 de Saint Jean, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Continuons avec les versets 27 à 30 du chapitre 3 de Saint Jean. Jean-Baptiste répondit, « L'homme ne peut rien recevoir que ne lui ait été donné du ciel. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'écoute est ravi de joie à cause de la voix de l'époux. Cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette dernière phrase est absolument fondamentale. Elle montre toute l'humilité de Saint Jean et montre aussi l'humilité que doivent avoir tous les ministres du Christ. Malheur, malheur aux prêtres qui essayent de garder les âmes dont ils s'occupent pour lui. Le rôle du prêtre, c'est d'amener les âmes dont il a la charge à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un peu un problème parce que, évidemment, la grâce ne détruit pas la nature. Donc, au début, les gens vont s'attacher un peu à la personne du prêtre, surtout les convertis. Et puis, lorsqu'ils arrivent à notre Seigneur Jésus-Christ, ils arrivent au baptême, ils arrivent à recevoir les sacrements habituellement, eh bien, il faut laisser les gens de plus en plus libres de s'attacher directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur Lefebvre, c'est un exemple pour vous expliquer ce que faisait Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre exigeait par exemple des prêtres, quand ils étaient dans un endroit, donc ils faisaient leur apostolat, il y avait des baptêmes, des catéchumènes qui préparaient au baptême. Et puis souvent le prêtre, au bout d'un certain nombre d'années, était envoyé ailleurs. Eh bien, Monseigneur Lefebvre disait à ce prêtre qui était nommé ailleurs, dans un autre pays, dans une autre diocèse, un autre diocèse, une autre paroisse, un matin que vous partez ailleurs, vous devez couper avec les anciens paroissiens. Bon, garder quelques relations épistolaires, très bien, de temps en temps, un coup de téléphone de temps en temps, très bien, mais il ne faut pas vouloir absolument garder l'influence qu'ils avaient sur, leurs anciens fidèles. Il est normal qu'un prêtre ait de l'influence sur ses fidèles. Mais lorsqu'il est nommé ailleurs, il n'a plus grâce d'État pour s'occuper de ses fidèles. Et donc, il doit couper avec ses anciens fidèles et ne pas chercher à garder cette influence. C'est toujours un problème, surtout quand le prêtre qui remplace celui qui était là auparavant peut parfois manquer un peu de tact, être un peu trop dur, un peu cassant. Et du coup, les prêtres préféraient les fidèles préféraient le prêtre qu'ils avaient auparavant. Ils ont tendance à systématiquement téléphoner à l'ancien prêtre pour demander les conseils dont ils ont besoin et ne veulent plus s'adresser au prêtre nouveau qu'ils ont reçu. Mais c'est là où il faut leur faire comprendre que dans la tradition, c'est très important, les fidèles n'appartiennent pas aux prêtres. Les prêtres ne sont que des instruments. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet. Nous en sommes donc en bas de la page 38. Notre Seigneur est l'époux, et je suis moi l'ami de l'époux, et envoyé devant lui pour préparer son épouse à le recevoir. Celui qui a l'épouse est l'époux. Donc cette épouse, on peut se demander qui est cette épouse, on parle notre Seigneur, j'en parle Saint Jean-Baptiste, et bien cette épouse, c'est l'Église, formée de toutes les nations. Elle est vierge par l'intégrité de son âme, la perfection de sa charité, l'unité de la foi catholique, la concorde qui est le fruit de la paix, la pureté de son cœur et de son corps. Elle a un époux qui la rend mère tous les jours. Rappelez-vous que l'Église catholique, qui n'est rien d'autre que le corps mystique du Christ, elle est une sainte catholique et apostolique. Elle est une et sera toujours une. Elle est sainte, sera toujours sainte. Elle est catholique, sera toujours catholique. Elle est apostolique et sera toujours apostolique. Donc attention, c'est un détail important. Parfois, on entend des fidèles qui nous disent « Monsieur l'abbé, il faut prier pour l'unité de l'Église ». Pour retrouver l'unité de l'Église. On ne peut pas perdre l'unité de l'Église, parce que l'Église est une par nature. L'Église catholique étant la véritable Église, elle est une, il n'y en a qu'une seule. Donc l'Église ne peut pas perdre son unité. Donc on ne peut pas prier pour retrouver l'unité de l'Église, parce que l'unité de l'Église n'a pas été perdue, n'a jamais été perdue, ne sera jamais perdue. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les forces du mal ne pourront rien faire contre son Église, qui est le corps mystique du Christ. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, cette épouse dont parle ici Saint Jean-Baptiste, qui est unie à l'époux, l'époux c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, c'est le corps mystique du Christ. L'épouse, c'est donc l'Église catholique. Elle est formée de toutes les nations, elle est vierge, dans le sens qu'elle n'a jamais été contaminée par le péché, elle ne s'est jamais donnée à une autre personne, à un autre homme. Elle a une intégrité de doctrine, une intégrité spirituelle, une perfection de la charité, une unité dans la foi catholique. Elle a la concorde, qui est le fruit de la paix, c'est-à-dire qu'elle a la vertu de charité et la pureté de cœur et de corps. Donc, elle est virginale, donc elle est vierge, disent les pères, mais en même temps, elle a un époux qui la rend mère tous les jours. Elle est vierge et mère, comme la très sainte Vierge Marie. C'est pour ça que la très sainte Vierge Marie est le représentant, représente de façon extraordinaire l'union du Christ et de son Église. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est uni à la très sainte Vierge Marie comme le Christ est uni à son Église. Voilà pourquoi, je vous l'ai déjà dit, au moment de mourir, il va dire à Saint Jean, « Fils, voici votre mère. » Et à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Donc l'Église catholique ne peut pas être souillée, c'est impossible. Les hommes d'Église peuvent être souillés, malheureusement. Rappelez-vous le message de la Salette qui a été reconnu par je ne sais pas combien de papes, commencé par Pie IX, puis après Léon XIII, Saint Pie X, et Pie XI, et tous les autres papes. Donc le message de la Salette commence en disant « les prêtres, les ministres de mon divin fils sont devenus des cloaques d'impureté. Hein, cloaques d'impureté. Et ce même message dit « Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. » Pour bien montrer que l'Église en elle-même est une sainte catholique et apostolique, Mais cette sainteté de l'Église n'entraîne pas une sainteté automatique de tous les membres de l'Église. On peut être membre de l'Église sans être un saint, hélas, c'est très fréquent. C'est pour ça que les membres de l'Église catholique ont besoin de se confesser. Mais l'Église même, si elle est composée de pécheurs, l'Église en elle-même a une sainteté inhérente à elle-même parce qu'elle est le corps mystique du Christ. Donc elle a cette virginité, elle a cette perfection de la charité, elle a cette intégrité, cette unité, cette concorde, fruit de la paix, cette pureté du cœur et du corps. Et ça, c'est très important, surtout aujourd'hui. Faire un petit peu attention, justement, je parle aux personnes qui m'écoutent sur Internet, parce que vous parlez à des enfants, de bien insister sur ces choses-là, pour que les enfants comprennent que même si l'Église de Vatican II n'a plus rien de catholique, il n'en demeure pas moins que l'Église catholique en tant que telle est sainte. Bon, vous allez me dire, mais l'Église de Vatican II n'a plus rien à voir avec cette sainteté de l'Église catholique. C'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'en entendant des critiques constantes contre l'Église de Vatican II, les enfants ou les adolescents aient un mépris pour l'Église en elle-même. Ça, c'est un petit peu le danger. On voit très bien dans le monde moderne comment les grands systèmes de pensée, tous les grands groupes financiers font tout pour détruire le respect qu'il faudrait avoir envers l'Église. Donc ils vont parler par exemple des chutes de certains prêtres, hélas, et surtout des chutes contre nature, on en parle énormément aujourd'hui, des chutes contre nature de certains prêtres, et du coup ils vont essayer d'utiliser ces ennemis de l'Église, ces grands journaux, qui sont au service, qui sont payés par les grandes puissances d'argent, vont tout faire pour détruire le respect, surtout que les enfants doivent avoir à l'égard de l'Église catholique. Il faut toujours bien faire la distinction, même s'il y a hélas des prêtres qui ont failli, eh bien l'Église en elle-même reste parfaite. L'Église est une sainte catholique apostolique. Et persécutés, c'est ce qu'on appelle les quatre notes de l'Église. Alors, bien comprendre ces choses-là, elle est une parce qu'il y a une unité de foi, une unité sacramentelle, une unité de gouvernement, elle est sainte parce que son fondateur est saint, elle est catholique parce qu'elle est universelle, valable donc pour tous les temps, toutes les personnes, tous les pays. Et elle est apostolique, dans le sens que l'enseignement des apôtres perdure à travers le temps et que l'enseignement enseigné aujourd'hui par l'Église catholique est le même que l'enseignement qui vient de Saint-Pierre. Elle est apostolique aussi, dans le sens que le pape est le successeur de Saint-Pierre. Il est représentant de Saint-Pierre, successeur de Saint-Pierre, représentant notre Seigneur Jésus-Christ, et son rôle est de garder le dépôt de la foi. Donc l'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, elle ne peut pas perdre ces quatre notes. On peut rajouter à ces quatre notes une sainte catholique et apostolique, une cinquième note en fait, pas strictement parlant une note, mais on peut remarquer que l'Église n'est pas simplement une sainte catholique et apostolique, l'Église du Christ est aussi toujours persécutée. Une Église qui ne serait pas persécutée, on pourrait vraiment avoir des doutes très sérieux sur la véracité d'une Église qui se présenterait comme véritable Église, qui ne serait pas persécutée par le monde. Pourquoi ? Parce que entre l'esprit du monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une incompatibilité totale. Puisque l'Église, on le voit très bien d'ailleurs, dans les deux Églises qui sont côte à côte aujourd'hui, ici-bas sur la terre, c'est clair et net, il y a l'Église catholique d'un côté et l'Église de Vatican II de l'autre. Ce sont deux Églises totalement différentes. Pourquoi ? Parce que la première, l'Église catholique, est entièrement centrée sur Dieu, c'est une Église théocentrique, alors que la deuxième Église, l'Église de Vatican II, est une Église centrée sur l'homme, c'est une Église humaniste, une Église homocentrique. Donc d'un côté, l'Église catholique prêche les droits de Dieu, la loi naturelle, les droits de Dieu, les dix commandements, les commandements de Dieu, alors que l'Église de Vatican II prêche les droits de l'homme. Donc il y a une incompatibilité totale entre ces deux églises. Il n'est pas possible d'appartenir aux deux églises en même temps. Pas possible. Donc je reprends cette phrase qui est très belle, qui est en bas de la page 38. Donc l'église, cette épouse, c'est l'Église formée de toutes les nations. Pourquoi ? Parce qu'elle est catholique, donc universelle. Vierge par l'intégrité de son âme, perfection de sa charité, unité de la foi catholique, concorde qui est le fruit de la paix, pureté de son cœur et de son corps, elle a un époux qui la rend mère tous les jours. Donc elle est vierge et mère. Et donc là, ici, les pères font une allusion à la fécondité intrinsèque de l'Église catholique. L'Église véritable et catholique est donc féconde, c'est-à-dire qu'elle va engendrer des enfants. Et voilà pourquoi une Église qui n'est plus missionnaire, qui ne cherche plus à convertir les âmes, est une Église qui est morte. Un des signes par lesquels on peut reconnaître qu'une Église est morte, c'est qu'elle ne cherche plus à convertir les âmes. On le voit très bien dans l'Église de Vatican II, où la conversion des âmes est littéralement interdite. Bergoglio le dit expressément, il ne veut pas qu'on cherche à convertir les âmes. On ne cherche plus à convertir les âmes, on cherche simplement à aider les gens à sentir bien sur la terre. Donc le but de l'Église catholique n'a jamais été, ne sera jamais d'aider les gens à sentir bien sur la terre. Le but de l'Église catholique, c'est d'aider les âmes à monter vers Dieu, à se sauver. Ici un texte de Saint Bède le Vénérable, c'est bien inutilement qu'une vierge a la pureté du corps, si elle n'y joint pas, la chasteté de l'âme. Mais pour cette épouse, Jésus-Christ se l'est unie sur le lit nuptial du sein virginal de sa mère et l'a rachetée du prix de son sang. Donc on voit bien que la Très Sainte Vierge Marie a un titre extraordinaire. Elle est Mater Ecclesiae, elle est mère de l'Église, parce qu'elle est mère du Christ. Elle ne peut pas être mère du Christ sans être en même temps ipso facto mère de l'Église. Elle ne pourrait pas être mère de l'Église sans être en même temps à la base mère du Christ. Et c'est parce qu'elle est mère du Christ qu'elle est mère de l'Église. Et notre Seigneur Jésus-Christ a racheté au prix de son sang cette Église catholique et a conféré justement au chef de l'Église catholique ici-bas sur la terre, le pape, un don extraordinaire justement pour préserver cette intégrité virginale, le don de l'infaillibilité. Quand le pape parle sur la foi et les mœurs avec intention, en tant que pape, avec intention de diriger toute l'Église dans cette vérité, il est infaillible. Et donc, on peut vraiment dire que l'Église a été rachetée par le prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'elle participe à la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est une sainte catholique et apostolique parce qu'elle a été fondée par quelqu'un qui est parfaitement saint, parfaitement pur, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Enfin, dernier point expliqué par les pères. Dans cette page 38, Jésus-Christ est encore l'époux de toute âme fidèle. Et le lieu se contracte cette union, c'est l'Église où l'âme reçoit le saint baptême. Les arts que l'époux donne à l'épouse sont la rémission des péchés, la communication du Saint-Esprit. Il réserve pour l'autre vie les dons plus parfaits à ceux qui en seront dignes. Donc cette union entre l'Église et le fondateur de l'Église est réalisé au moment du baptême. Le lieu se contracte cette union, disent les pères, c'est l'Église où l'âme reçoit le saint baptême. Donc c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants de l'Église. On ne peut pas être enfant de Dieu sans être enfant de l'Église, on ne peut pas être enfant de l'Église sans être enfant de Dieu. Ce sont des points extrêmement importants, surtout aujourd'hui, il y a une telle pagaille dans les âmes qui oublie justement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul moyen de salut. Personne ne peut être sauvé sans ce moyen de salut unique, exclusif, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On peut utiliser pour le prouver des textes très forts, notamment des Actes des Apôtres au chapitre 4, ce texte qui est repris dans la fête du Saint-Nom de Jésus, qui est célébré au 2 janvier ou au dimanche entre la circoncision et l'épiphanie, donc le dimanche qui tombe entre le 1er janvier et le 6 janvier. Sinon, à défaut, on célèbre cette fête le 2 janvier. Voilà ce qu'il est dit dans ces Actes des Apôtres au chapitre 4. C'est Saint Pierre qui parle, qui est rempli du Saint-Esprit et qui parle aux anciens, aux princes du peuple. Voilà ce qu'il leur dit. qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, et qui est devenue la pierre d'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Personne ne peut donc être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'absolument indispensable à comprendre. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul moyen de salut. Je conseille beaucoup à ceux qui veulent, qui ont un petit peu de mal à accepter ces grandes vérités de la foi. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. De relire la magnifique encyclique du pape Pie XI de 1928, cette lettre encyclique sur l'unité de la véritable Église, qu'on appelle Mortalium Animos. Je n'ai pas le temps de vous la lire entièrement parce qu'elle est trop longue, mais je voudrais vous citer certains passages. Le pape Pie XI rappelle ce qu'est le véritable écuménisme. Il y a un véritable écuménisme dans l'Église. Le véritable écuménisme consiste à faire rentrer les païens dans l'Église catholique pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur. C'est ça l'écuménisme. Le véritable écuménisme, c'est d'enseigner qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc, je vous donne certains passages de cette encyclique. Donc, 1928. Pie XI, Mortalium Animos. Alors voilà ce que disent le pape. Je cite certains passages. Donc, il parle de ces catholiques modernes, 1928, qui se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences fréquentées par un nombre appréciable d'auditeurs. Ils invitent tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout genre comme les fidèles du Christ, et même ceux qui par malheur sont séparés du Christ, dans cette espèce de réunion écuménique. Voilà ce qu'il dit. C'est toujours valable, ça n'a pas pris une ride. Voilà ce que dit le pape Pie XI. De telles entreprises, donc des écuméniques, ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes également, bien que de manière différente, manifestent et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. Donc se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines écuméniques, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Donc, il appelle ces écuménistes à l'époque, ils avaient un autre nom, on les appelait les panchrétiens, qui essayaient d'avoir une espèce d'union entre toutes les fausses religions. Il en résulte, dit le pape Pie XI, qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Le devoir de l'homme, c'est de croire sans réserve à Dieu qui parle et d'obéir totalement à Dieu qui commande. Donc, le Christ notre Seigneur a établi son Église, dit le pape Pie XI, en société parfaite, extérieure par nature, perceptible au sens, avec la mission de continuer dans l'avenir l'œuvre du salut du genre humain sous la conduite d'un seul chef. Il est donc par conséquent impossible non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins que nous ne voulions dire, à Dieu ne plaise, ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Il faut donc... Je reprends un petit peu là certains passages du pape Pie IX. Donc il reprend les erreurs de ces panchrétiens. Il faut donc, disent-ils, négliger, écarter les controverses, même les plus anciennes, les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui les non-chrétiens, et au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une certaine règle de foi commune dans la profession de cette foi. Tous sentiront qu'ils sont frères plus qu'ils ne le sauront. Seulement, une fois réunis en une fédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. Évidemment, c'est condamné par l'Église. Il va de soi, dit Pie IX, Pie XI, pardon, c'est la partie importante de l'encyclique, le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à ces congrès œcuméniques et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Pourrons-nous souffrir, ce serait le comble de l'iniquité, que soit mise en accommodement la vérité divinement révélée. De plus, quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé, dit le pape Pie XI, à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qu'il leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Il a sanctionné cet ordre par ces mots: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Or, l'un et l'autre de ces deux commandements qui ne peuvent pas ne pas être observés, celui d'enseigner et celui de croire pour obtenir la vie éternelle, ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique et si dans cet exposé, elle n'est pas à l'abri de tout danger d'erreur. Comment la charité pourrait-elle se tourner au détriment de la foi? Puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Donc le pape condamne à la mort, en 1928, toutes les folies de l'écuménisme actuel. Il est absolument illicite d'user la distinction qui plaît à ces pans chrétiens d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui ne seraient pas fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que le second pourrait être laissé comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vérité surnaturelle de foi a en effet pour objet l'objet formel de l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. Donc loin de nous les erreurs de l'indifférentisme. Donc le magistère de l'Église, une phrase capitale du pape Pie XI, c'est des textes infaillibles, hein. Le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Donc il n'y a pas besoin que... faut pas croire que cette sainteté de l'Église, cette sainteté du magistère de l'Église ne s'exerce que lorsque le pape parle de façon extraordinaire dans son magistère. C'est aussi dans le magistère ordinaire, puisque ce magistère s'exerce chaque jour, dit le pape Pie XI. Donc, encore une fois, le siège apostolique n'a jamais donc autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis, en effet, de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu le malheur jadis de s'en séparer. Jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée. Elle ne pourra jamais l'être au témoignage de saint Cyprien. L'épouse de Christ ne peut commettre un adultère. Elle est intacte et pure. Rappelez-vous que les pères de l'Église parlaient de la virginité de l'Église catholique, l'Église qui est vierge par l'intégrité de son âme. Donc, je vais citer là les passages principaux de cette encyclique de Pie XI. Donc, il faut relire ces textes, vous voyez, pour s'imprégner de cette doctrine, parce qu'on est tous, malheureusement, imprégnés, encore une fois, des idées modernes. Hein. Rappelez-vous, Monseigneur Lefebvre, je vais souvent citer ce passage qui nous disait qu'on a été contaminé par le lait de notre mère. C'est malheureusement très vrai. Hein. Le bon Dieu veut le salut de tous les hommes. Alors passons à la page 39, nous continuons les commentaires sur ces versets 27 à 30 de Saint Jean au chapitre 3. Nul autre ne peut prétendre à l'honneur d'être l'époux que Jésus-Christ seul. Donc il n'y a pas de distinction entre, si vous voulez, l'Église en tant qu'entité divine et notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, continué ici-bas par la Sainte Messe. Tous les docteurs sont donc des paranymphes comme le précurseur, mais Dieu seul est la source de tous les biens célestes. Tous les autres ne sont que des ministres dont il se sert pour répandre ses biens. Donc on reprend la phrase de saint Jean-Baptiste, il faut que le Christ croisse et que moi je diminue, parce que je ne suis que l'intermédiaire qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que j'ai amené les gens à la porte du Christ, je peux m'effacer. Donc ces paroles renferment, dit le Père, un grand mystère avant la venue du Seigneur.